tu peux me dire le nom de la personne qui s'affiche ici? Martin Luther King, d'accord. Personnage bien connu. Personnage bien connu et qui est connu pour son combat donc pour la défense des droits civiques des Noirs américains. Et Martin Luther King a été assassiné en avril 1968. Il se trouve que la personne qui l'a assassiné a été emprisonné dans ce pénitencier, dans le Tennessee, au milieu d'une région très montagneuse. Vous imaginez un peu la Haute-Loire, Tin Ranch, mais sans maison, sans rien, que des forêts et à perte de vue. Et voilà que ce prisonnier, en 1978, s'est échappé de ce pénitencier. Formidable, il a réussi à se faire la malle avec quelques autres codétenus. Et pendant 54 heures, il a couru dans la forêt. Et au bout de 54 heures, il avait fait 13 kilomètres. Ce qui n'est pas beaucoup. Et surtout, au bout de 54 heures et 13 kilomètres, il est revenu au pénitencier pour se rendre. Parce qu'en fait, c'est une région montagneuse où il n'y a pas de point de vue. En fait, on perd tout repère, c'est impossible de savoir où on est. Et il a tourné en rond. Et cet événement a donné lieu à la création d'une des courses les plus dures au monde qui s'appelle la Barclay, et dont le principe, c'est de faire 160 km en moins de 60 heures avec tout plein de principes dont je n'ai pas le temps d'exposer maintenant, mais qui font que la dernière personne qui a réussi à finir la course, c'était en 2017. Alors, il se trouve que, justement, c'est ce que j'aimerais échanger avec vous ce matin, partager avec vous ce matin, c'est mal connaître Christ, c'est risqué. Partir se balader dans une forêt qu'on ne connaît pas, sans carte, sans boussole, c'est risqué. Mal connaître Christ, c'est risqué aussi. Et j'aimerais lire avec vous ce passage de Luc 19, 11 à 17. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien, bon et bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose. Reçoit le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Alors, j'aimerais vous proposer de relire ce texte de manière un petit peu illustrée. D'accord ? L'histoire commence avec un homme de haute naissance qui devait partir dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il se trouve que avant de partir, il appelle 10 serviteurs, il leur donne à chacun une pièces d'or et il leur demande de faire fructifier ça pendant son retour. Il part pour aller se faire couronner, mais voilà qu'il y a aussi des personnes de son pays qui le suivent et qui sont là pour dire « Non, non, on le déteste, on ne veut pas qu'il soit couronné. » Visiblement, ça ne marche pas, puisqu'il revient dans son pays, il a la couronne, et on n'entend plus parler pour le moment de ceux qui le détestaient. Alors il revient auprès des 10 personnes à qui il a donné une pièce d'or, mais le texte nous raconte uniquement la situation de 3 d'entre eux. Il y a un premier qui a réussi à multiplier par 10 la pièce d'or qu'il avait au départ, un deuxième qui réussit à multiplier ça par 5, et puis un dernier qui réussit à rien du tout. Il se trouve que le roi récompense largement les 2 serviteurs qui ont fait fructifier la pièce d'or qu'il leur a donnée, puisque il donne la responsabilité de 10 villes au premier et de 5 villes à un autre. Alors, alors que le dernier, lui, il lui enlève même la pièce d'or qu'il lui avait confiée, parce que il n'est pas digne d'avoir. Il s'est pas occupé en fait du trésor qu'il lui avait donné, et donc il lui enlève même ce qu'il a. Et il le donne à celui qui avait 10 pièces d'or. Et c'est là qu'on voit de nouveau arriver ces personnes qui détestaient ce roi. Et le passage termine de manière très sèche. « Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Alors, quel est le sens de cette parabole que Jésus nous donne ? Vous êtes d'accord avec moi que cette parabole fait écho à une autre parabole très connue. Ici, on a la parabole des mines, et ça fait écho à cette parabole qui se trouve dans Matthieu, qui s'appelle la parabole des talents, qui commence comme cela. « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. » Et là, me vient une envie irrésistible de jouer au jeu des 7 différences. À savoir, qu'est-ce qui diffère entre ces 2 paraboles ? Et je dois vous confier que ce jeu-là n'est pas très amusant. Il est intéressant. Par exemple, dans la parabole des mines, on voit qu'il y a 10 serviteurs qui reçoivent chacun une mine, alors que dans la parabole des talents, il est fait mention que de 3 serviteurs qui chacun reçoivent une somme différente. Bref, on pourrait multiplier comme ça les différences, et ça ne nous mène pas vraiment très loin. Puisqu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces paraboles sont là pour apporter un message et un principe qui est lié au contexte dans lequel cette parabole est donnée. Et le contexte de Matthieu n'est pas tout à fait le même que le contexte de Luc. Ce qui laisse dire à certains que Luc aurait simplement repris la parabole des talents et puis l'aurait transformée pour que ça colle dans... Je ne suis pas trop à l'aise avec cette interprétation. D'autres disent que ça pourrait être en fait la même parabole, mais qui a été transmise oralement et qui, du coup, a fini par avoir des différences. Je ne suis pas trop à l'aise avec cette interprétation. Et l'interprétation que je préfère, c'est qu'en fait, Jésus a utilisé à 2 reprises une histoire similaire, mais en lui donnant une couleur différente en fonction du contexte et en fonction du message qu'il voulait apporter. Alors, quel est ce message dans cette parabole ? Là, je vais vous le dire. Regardez le message que Jésus veut dire. Il est question de faire fructifier, de faire des bénéfices, d'une banque, d'intérêt. Bref, c'est une histoire sur une success story. Si vous voulez vous épanouir dans votre vie, vous devez gagner beaucoup d'argent. Je vois que vous êtes tous avec le sourire aux lèvres, contents quand on vous dit ça, parce que c'est ce que notre société nous dit. Et ceci étant, c'est une fausse piste, puisqu'en fait, cette image de la banque, et puis de la fructification, et puis des intérêts, etc., c'est une image, mais ce n'est pas ce que Christ veut nous dire. il n'est pas en train de nous dire, voilà comment vous allez réussir dans votre vie professionnelle, comment vous allez faire de l'argent, etc. Pas du tout, pas du tout. Encore une fois, ce qui compte pour comprendre le sens de cette parabole, c'est son contexte. Et regardez le verset qui éclaire complètement qui est cette parabole et qui permet de bien la comprendre. C'est ce verset 11. « Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. » Et là, je vous propose de nous arrêter sur ce verset mot à mot, ou presque. Première chose, Jésus est près de Jérusalem. Il est à Jéricho. Il est en marche vers Jérusalem. Et on sait, dans l'évangile de Luc, que depuis le chapitre 9, verset 51, Jésus est en voyage vers Jérusalem. En fait, cette parabole est donc à la fin de ce voyage. C'est le dernier épisode de ce voyage de Jésus vers Jérusalem. On est donc à la fin de la deuxième sur trois, de la deuxième partie sur trois qui compose l'évangile de Luc. La troisième partie qui suit est celle de la croix, de la crucifixion et de la résurrection. Il se trouve que alors qu'il va vers Jérusalem, il vient préciser que cette parabole, elle a lieu comme la foule écoutait cela. Alors c'est quoi ce « cela » ? Dans le passage précédent, il y a l'histoire de Zachée. Zachée, cet homme qui était collecteur d'impôts, qui était très mal vu, qui avait la réputation d'être un voleur, et qui voulait absolument rencontrer Jésus, et qui, lorsqu'il le voit, lui explique comment il s'est repenti, et comment il a changé de vie, et comment il arrête d'arnaquer les gens. Et voilà que Jésus conclut sa rencontre avec Zachée en disant « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et là, la foule dit « Waouh, ça c'est un message puissant. Voilà une personne charismatique qui est là pour venir s'occuper de ceux qui sont perdus, pour prendre soin des faibles, pour prendre soin de ceux qui ont besoin d'aide. C'est magnifique. » Et on voit que la foule, la tension monte, et la foule est dans l'expectative de savoir ce que va faire Jésus et pourquoi Jésus va vers Jérusalem. Et c'est vraiment palpable lorsqu'on lit la fin de ce verset qui dit « Et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. » La foule est persuadée que Jésus va à Jérusalem pour instaurer le royaume de Dieu qui, dans la tête des gens, c'est un royaume terrestre, à savoir que Christ va avoir la couronne et va pouvoir chasser les dominateurs romains. L'émotion monte, la foule est en attente de ce nouveau roi qui va les délivrer, qui va les sauver, et en même temps, Jésus ajoute une parabole. Et voilà le but de cette parabole. Jésus est là pour faire comprendre aux personnes qui l'écoutent que non, le royaume de Dieu ne va pas apparaître immédiatement. Non, il n'est pas venu pour prendre une couronne terrestre. Il a un projet différent et beaucoup plus grand que cela. Alors pourquoi ? Parce que pourquoi ce détail est important ? Parce que la parabole que Jésus apporte est là pour démonter une fausse idée que la foule a sur Jésus et sur ses intentions. Et il se trouve que dans la parabole, quel est le problème central qui apparaît ? Ben c'est celui du mauvais serviteur qui est convaincu, qui n'a pas fait fructifier les mines, la mine qu'on lui a donnée, et qui se retrouve avec plus rien parce qu'en fait, il dit de Jésus ceci. Je vais vous relire le verset en entier. Seigneur, voici la pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. J'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et Jésus lui répond, « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Jésus pointe du doigt la vision complètement déformée que ce serviteur a de son maître. Et qui est tellement déformée que ça le paralyse et que ça l'empêche d'être un serviteur utile. Alors, dans le contexte de l'époque, un serviteur, c'est un esclave en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, le maître dit, voilà une mine, tu dois la faire fructifier. Il n'a pas le choix, il doit la faire fructifier. Donc là, on est face à un serviteur qui est appelé mauvais serviteur parce que c'est l'esclave qui n'a pas fait son boulot. Mais pourquoi il n'a pas fait son boulot ? Vision déformée de son maître. Et là, on a une grille de lecture qui est extraordinaire de cette parabole et qui nous parle de l'importance de notre compréhension de ce que Christ est et de ce que Christ veut faire avec nous. Mal connaître Christ, ça peut avoir pour conséquence 5 risques. Premier risque, c'est celui de ne pas veiller sur mes réactions. Il se trouve que cette semaine, j'étais avec Guy au téléphone avec la banque qui va financer le prêt immobilier pour les maisonnettes. Et voilà que la nouvelle proposition de prêt est de 1,5 point supérieur à ce que c'était il y a 4 mois en arrière. Donc ça fait une grosse différence, ça fait plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, c'est une mauvaise nouvelle. Ma première réaction, c'est de dire « Ah, si le voisinage n'avait pas fait de recours, ce ne serait pas arrivé. Merci voisinage. » Deuxième réaction, mais en fait, en réalité, en réfléchissant plus loin, « Ah, mais si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, le coût des matériaux n'aurait pas augmenté autant que cela. Ah !» Et puis si on continue, « Ah, mais s'il n'y avait pas eu de pandémie, il n'y aurait pas de rupture de matières premières, etc. On serait moins... Ben, bref, vous avez compris qu'au final, on peut continuer comme cela, puis à la fin, on tape sur qui ? Sur Dieu. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie, quand j'ai des projets qui n'aboutissent pas, ou quand les choses ne tournent pas du tout comme j'avais envie ? Est-ce que ma réaction, c'est de me rebeller contre les circonstances, de me rebeller contre Dieu, et de dire, mais où est Dieu s'il m'arrive tout ce qu'il m'arrive ? C'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on termine le lycée ou qu'on est étudiant et puis qu'on cherche aussi sa voie, quelles études faire, quel métier faire plus tard. C'est une période qui est pour certains très simple et puis pour d'autres très compliquée et très déstabilisante. Et puis, une fois qu'on a terminé ses études puis qu'on a commencé un travail, bah, peut-être qu'on ne se sent toujours pas à sa place. La question est de dire bah, où est Dieu dans tout ça ? Est-ce que quelque part il m'a pas guidé comme il aurait dû, il m'a pas dit où est-ce que dans quelles études j'aurais dû aller, etc. etc. C'est une manière qui est pas juste de réfléchir. En réalité, Dieu est là, quelles que soient les études que l'on choisisse, les orientations qu'on fait, mais ensuite, dans la réalité de notre vie quotidienne, on a besoin de lui et on a besoin de veiller sur nos réactions et de considérer que il est là pour nous accompagner et nous orienter. Si je vous donne un deuxième risque, c'est celui de veiller sur mes pensées. Il se trouve que lorsque Noé reçoit la mission de construire l'arche, à l'origine de cette mission, il y a un constat. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et par contraste, Noé était un homme intègre et juste. Veiller sur mes pensées, sur ce qui se passe dans ma tête, sur ce que j'autorise dans mes réflexions, ça a aussi un rôle. On parle beaucoup de la langue et des méchantes choses qu'on peut dire à notre langue, mais Dieu voit aussi ce qui se passe dans nos pensées et on doit aussi veiller là-dessus. Veiller sur mes idéaux politiques. On est en période électorale. Je vous sens tendu là tout d'un coup. Je ne ferai pas de politique. Je voulais juste vous parler d'un exemple qui est lié aux États-Unis, donc loin d'ici, qui est le développement du nationalisme chrétien. Pour résumer ce mouvement, c'est l'idée répandue dans beaucoup de milieux protestants, évangéliques aux États-Unis, que les États-Unis est un pays qui a été choisi par Dieu avec une mission de faire rayonner les valeurs chrétiennes dans le monde entier. L'idée est intéressante, mais en fait, il y a un mélange des genres qui vient imposer une lecture politique de l'évangile et qui n'est pas l'évangile. Alors que c'est l'inverse qui nous est demandé, c'est que l'évangile vienne influencer notre vision politique et voire même notre politique. Si vous voulez, on peut en parler plus après, mais je vais avancer. Veillez aussi, bien sûr, sur ma relation avec Christ. Et là, j'aimerais vous citer encore une fois, c'est la troisième fois, ce livre « Doux et humble de cœur » de Dan Ortlund, qui a un chapitre sur ce verset de Jean 6, 37. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Quelle est ta relation avec Christ ? En ce moment-là, si tu devais donner une note qualité entre 0 et 5 sur la qualité de ta relation avec Christ, où est-ce qu'on en est ? Bien voilà ce que John Bunyan propose sur ce verset. John Bunyan, c'est donc l'auteur du Voyage du Pèlerin, c'est un auteur du XVIe siècle, et Dan Ortlund le cite dans son livre. Et voilà ce qu'il dit sur notre manière de dialoguer avec Christ. Donc Christ dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et donc, nous, on a tendance à répondre « Non, mais attends, tu ne comprends pas, je me suis vraiment pris les pieds dans le tapis de toutes sortes de manières. »« Je sais, » répond Jésus. « Tu en sais long, c'est vrai, certainement plus que ce que les autres voient, mais il existe au plus profond de mon être une perversion que je cache à tout le monde. » « Je sais, » dit Jésus. « L'ennui, ce n'est pas juste mon passé, c'est aussi mon présent. » « Je sais, je comprends, » dit Jésus. « Mais j'ignore si je pourrais me libérer de tout ça dans un avenir proche. » Mais Jésus dit, « Tu es le seul genre de personne que je peux aider. » « Mon fardeau est lourd et il ne cesse de s'alourdir. » Et dans ce cas-là, dit Jésus, « Laisse-moi le porter. » « Mais il est trop lourd à porter. » « Pas pour moi, » dit Jésus. « Tu ne comprends pas, mes offenses ne sont pas dirigées contre les autres, elles le sont contre toi. Je suis donc le mieux placé pour te les pardonner. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et donc Bunyan termine ainsi la liste de toutes les objections que nous pouvons émettre pour ne pas venir à Jésus. Dieu nous a donné cette promesse afin de réfuter toutes les objections possibles. Ce qu'il fait, d'ailleurs, affaire classée, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », c'est une affirmation qui n'a pas d'objection recevable en face. Quelle est la qualité de ta relation avec Christ ? En tout cas, Jésus, lui, 5 sur 5, il te comprend et il sait qui tu es, ce que tu es. Et enfin, il est question de veiller sur son obéissance à Christ. Dans ce passage, on voit que le serviteur mauvais n'a pas fait fructifier la mine qui lui a été offerte. Et on voit une autre catégorie de personnes qui sont les concitoyens de ce roi qui le détestaient et à qui Jésus dit bah, « Maintenant, amenez-les-moi ici et ils vont être mis à mort. » On a l'impression que cette sanction, elle est quand même hyper forte, pas très politiquement correcte. Mais attention, comme toute parabole, il faut le remettre dans le contexte. Et Il est clairement dit juste avant que ce sont des personnes qui détestaient le maître, qui ont même été jusqu'à dire « on ne veut pas que ce maître règne sur nous ». Et c'est pour ça que la sanction est aussi forte. Et voilà la conclusion de cette parabole, qui est de dire qu'il y a trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est une double catégorie. Ce sont des personnes qui reçoivent toutes une mine à faire fructifier. On pourrait dire que ce sont les personnes qui acceptent l'évangile et qui acceptent la grâce de Dieu. Le fait que Christ est mort pour eux et Christ a transformé leur vie. Et puis ensuite, il y a des personnes qui font fructifier cette grâce reçue et puis d'autres qui n'en font rien. Et puis c'est un peu comme dans la parabole du semeur, ça se dessèche. Troisième catégorie de personnes, des personnes qui détestent l'évangile, qui détestent Christ et puis qui ne veulent pas en entendre parler. Bon. Dans le contexte de l'époque, ces trois catégories, elles parlent aux gens. Parce qu'en fait, il se trouve que le roi de Palestine, de Judée, devait aller à Rome pour se faire introniser avant de prendre le pouvoir. Et puis c'était une manière aussi de légitimer son pouvoir. Donc Hérode, tous les Hérodes là, qui sont cités dans les évangiles, devaient aller à Rome pour se faire couronner roi. Et puis, en effet, il pouvait y avoir un lobbying de concitoyens qui n'aimaient pas ce roi et qui voulaient l'affaiblir ou lui nuire. Donc ce contexte, cette parabole, elle parle aux Juifs qui sont là. Et en même temps, ils comprennent bien que ça fait référence à des personnes qui ne supportent pas à la fois que Christ viennent remettre en question leur manière de vivre dans la Palestine de l'époque. Juste après, c'est l'épisode où Jésus va dans le temple et puis il va tout bousculer en disant que ce temple est devenu une maison de voleurs. Et puis il y a aussi des personnes, c'est aussi une image du peuple juif qui a reçu cette grâce de Dieu de pouvoir accueillir le Messie et puis en fait qui le rejette et qui n'accepte pas qu'il transforme leur vie. Comment ce message s'applique à notre vie ? Eh bien, de la même manière que ce roi, pour pouvoir transmettre ses mines et puis pour pouvoir être en bénédiction à ses serviteurs, il a dû partir dans un autre pays pour être couronné. De la même manière, pour que moi je reçoive une mine et que Christ me bénisse, il a fallu qu'il parte et qu'il aille mourir à la croix pour que je puisse être sauvé. Et donc ces mines, cette parabole des mines, ne nous parle pas de comment faire pour être un super chrétien, ou pour pouvoir multiplier tout ce que Christ nous donne. Parce que sinon, celui qui fait 10 mines, celui qui fait 5 mines avec une mine, ce serait en fait un pasteur, quoi. Le seul qui a du temps pour être tout le temps au service de l'évangile. Et puis celui qui a 10 mines, ce serait la femme du pasteur, qui a encore plus de patience, etc. Non, c'est pas ça que ce passage nous dit, bien sûr. C'est le fait que la mine que nous recevons, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Christ qui s'est offert à la croix pour nous et qui a fait de nous ses enfants. Et cette grâce est tellement extraordinaire qu'on peut être comme ces serviteurs qui en font de une mine 5 ou d'une mine 10. On ne peut pas rester indifférent à l'amour de Christ. Mais on veut pouvoir faire fructifier ce que Christ a mis dans nos cœurs. Et pour cela, on veut veiller sur nos pensées, sur nos réactions, sur notre relation avec Dieu et aussi sur notre obéissance envers lui.